Chers amis, merci d'être venus si nombreux, si nombreuses, à cette conférence. Le sujet de cette conférence est un sujet tout à fait privilégié. Le moment est un moment tout à fait privilégié. Et l'intervenant est un intervenant tout à fait privilégié. Le sujet est privilégié car il n'y a pas pratiquement sur les dizaines et dizaines et dizaines de livres que le Rabbi de Lubavitch a écrit qui n'est pas rattaché de près ou de loin à l'éducation. Si on regarde dans Ayom Yom, marqué la citation exacte, le Rabbi Rachab, marqué que le Rabbi Rachab a annoncé, tout comme mettre les téphilines chaque jour est une mitzvah de la Torah, incombant à tous les juifs, qu'ils soient de grands érudits de la Torah, ou ne possèdent que des connaissances ordinaires, il est de la même manière une nécessité impérative pour chacun de réfléchir pendant une demi-heure chaque jour à l'éducation de ses enfants et de tout faire ce qui est possible et ce qui est au-delà du possible pour les guider sur le chemin dans lequel ils sont dirigés. L'éducation est un sujet très vaste. Il commence avant la conception, puis la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, jusqu'au dernier jour. Et voilà, le sujet est important parce que là, on va certainement traiter du sujet de la petite enfance. Et je vais juste vous raconter. Très souvent, j'étais en contact avec des parents. On va prendre un exemple entre autres, ce ne sera pas le sujet que certainement, je ne pense pas qu'on va aborder ce sujet. Sujet de l'éducation juive, de l'école juive, je veux dire. Mais très souvent, j'ai vu des parents qui mettaient leurs enfants dans des écoles publiques et puis disaient, bon, pour l'instant, l'enfant est tout petit, c'est pas grave, par commodité, je le mets dans une école publique, mais plus tard, c'est sûr, quand il sera grand, sûr et certain, je le mettrai dans une école juive. Alors qu'il faut savoir que lorsque plus l'enfant est plus petit, c'est comme un petit arbre, une petite pousse, il faut vraiment l'arroser, faire attention, être très prudent, pour pas que, grâce à Dieu, il pousse tordu. Que s'il pousse tordu, à ce moment-là, quand il sera grand, ce sera difficile de rectifier. Le sujet est un sujet donc privilégié. Le moment est un moment privilégié. Se trouve un peu avant Shavuot, et on sait très bien que la condition, parce que Dieu nous a donné la Torah, il a demandé des garants. On lui a proposé nos parents. Dieu n'a pas accepté. On a proposé les prophètes. Dieu n'a pas accepté. On a proposé nos enfants. Là, il a accepté. Et l'amour à Zakan dit qu'on doit vivre avec son temps. Et expliquer que vivre avec son temps, ça veut dire vivre avec la paracha de la semaine. C'est-à-dire chaque jour, vivre avec la montée de la Torah, de la paracha de cette semaine. Par exemple, aujourd'hui, on est dans la paracha de Acharei Kedoshim, mais le mercredi, la quatrième montée, et normalement, tous les problèmes du moment, ils sont dans la Torah. Si on savait regarder, on trouverait la réponse claire à toutes les questions. Et il se trouve que par Ashgacha Pratit, par, entre guillemets, par coïncidence, dans le morceau de parachat de cette semaine, il y a le sujet de l'éducation. Ish aviv, ish imo ve'aviv tira'u ve'et shavetotai tishmoru, etc. Ça veut dire que Dieu nous tend une main, si on peut dire. Il nous dit, voilà, cette semaine, c'est bien de prendre des forces, de regarder, d'étudier, de parler d'éducation. Et alors à ce moment-là, on va pouvoir, grâce à la parachat de la semaine, le moment particulier, le moment propice, prendre des forces pour que, avec l'aide de Dieu, on va pouvoir prendre beaucoup d'enseignements, de l'expérience, de tout ce qui va être dit pendant cette conférence, mettre en pratique et pouvoir progresser dans l'éducation des enfants. Le sujet est un sujet particulier, privilégié. Le moment est un moment privilégié et l'intervenant est un intervenant privilégié. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce soir, vous le connaissez peut-être pour beaucoup d'entre vous, le docteur Aldo Nauri, qui pendant 40 ans a exercé la spécialité de pédiatrie, mais pas seulement, si on peut dire, la spécialité de pédiatrie. Il s'est investi dans cette spécialité. Comme il l'écrit, j'ai relevé sur son site, l'enfant, il en fait le centre névralgique de ses préoccupations et tout ce qui tourne autour. Donc, sans plus nous faire attendre, je vais passer la parole au Dr Nauri.
Merci, monsieur. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je dois vous faire part d'un certain embarras. Je veux dire que je réponds très facilement aux demandes qui sont faites par la communauté juive de venir parler d'éducation pour une raison particulière, c'est que j'ai vu les enfants juifs évoluer pendant 40 ans au point que lorsque je recevais une famille juive au début de mon exercice, j'avais un préjugé favorable. À la fin de mon exercice, je m'attrapais la tête par avance en me disant que vraiment les juifs sont performants en toutes sortes de matières. Mettez-les dans le schmatès, ils font d'énormes choses. Mettez-les dans l'informatique, ils font d'énormes choses. Et il y en a un qui va acheter une maison à Deauville, tout le monde y va. On fait des choses toujours à l'extrême, le mieux possible, dans un effort considérable. Eh bien, dans le phénomène éducatif, les juifs ont foncé dans le mur qui a pris les autres et ne se sont pas préservés de ce qui faisait jusque-là la qualité de leur manière d'élever les enfants. C'est-à-dire que, à partir du moment où nos sociétés ont mis l'enfant au centre du dispositif familial, en lui asservissant ses parents, les juifs sont venus à faire la même chose. En oubliant que ça fait des millénaires que chez eux on insiste sur l'extrême importance de l'éducation. L'image qui a été donnée tout à l'heure du petit arbre qui pousse et qui ne peut pas laisser prendre une mauvaise direction est une belle image. Mais nous avons une illustration, je n'ai pas l'intention de venir faire ici un topo thoraïque ou un topo religieux. Mais nous avons une illustration que l'on peut regarder de loin dans ce qui s'est passé après la sortie d'Égypte. C'est passé quoi? C'est passé qu'au moment où ce peuple a été libéré, où Moïse est allé chercher les tables de la loi, immédiatement ils se sont révoltés, ils ont demandé des dieux comme ils en avaient en Égypte, on a fabriqué ce qu'on traduit par le veau d'or, mais qui peut être traduit par le cercle d'or. Dieu à tout. Et ça a entraîné quoi? Ça a entraîné ce qu'on appelle la punition, c'est-à-dire les 40 années dans le désert. On pourrait dire que ces 40 années dans le désert ont été décidées parce qu'on estimait que la manière dont ces personnes, composant le peuple juif, avaient fabriqué leur psyché était strictement impossible à réparer, fût-ce par les hommes les plus aptes à le faire. Alors, ça, c'est le début de mon embarras. L'autre embarras, c'est que je suis invité par Beth Lubavitch et que les patients que j'ai pu avoir, qui appartenaient à Beth Lubavitch, m'ont beaucoup appris. Et je dois dire que il m'est arrivé d'ailleurs d'adresser des mères juives à des mères lubavitch plutôt qu'à des psychologues ou des psychanalystes. Alors je me dis, qu'est-ce que j'ai à vous apprendre? Vous êtes là armé de quantité de points de repère. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Et j'ai résolu ce problème en me disant qu'après tout, on est là pour un moment, que nous sommes dans un lieu relativement circonscrit, très près les uns des autres, dans une certaine chaleur, et que nous pouvons peut-être imaginer que nous pourrions ensemble établir un dialogue où vous poseriez les questions qui vous préoccupent et où je viendrai vous apporter les réponses qui me paraissent les plus claires. Je veux quand même signaler que mon expérience de pédiatre intéressé à tout ce qui concerne de près ou de loin l'enfant, pas seulement dans sa santé physique, mais également dans son environnement et dans la manière dont les parents portent jusqu'à lui leurs histoires respectives, ont fait de moi un promoteur très contesté d'ailleurs dans le milieu professionnel de l'éducation précoce. Quand je dis de l'éducation précoce, je ne dis pas d'éducation à 4 ans ou à 5 ans. Je dis de l'éducation du nourrisson, du tout petit. Et je dis ça avec beaucoup, beaucoup de fermeté pour une raison extrêmement simple, c'est que quand on regarde le dispositif de manière objective, on ne peut que prôner ce type d'attitude. Pourquoi? Eh bien, un enfant, ça n'est jamais un effet de hasard. Un enfant, c'est le produit d'un double désir, de la mère et du père. Mais avec cependant une différence considérable, c'est que c'est la mère qui le porte. Et qu'à partir du moment où elle le porte, elle va laisser sur lui, qu'il soit un garçon ou une fille, une trace qui jamais, jamais, jamais ne s'effacera. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai posé la question pour savoir pourquoi vous donnez le prénom de la mère à côté du prénom de l'individu. Cette trace-là, ça peut vous apparaître comme une vue de l'esprit. Elle n'est pas une vue de l'esprit, elle est matérielle, elle existe dans la réalité. Quand je faisais mes études de pédiatrie, le chef de service se réservait le privilège de faire la seule heure de cours que nous avions sur le nouveau-né. Et il nous disait que du nouveau-né, on ne savait rien. Et que, sauf une chose, c'est que il souffrait d'une absence de définition. Ou en tout cas, d'une définition qui ne lui convenait peut-être pas tout à fait, puisqu'on définit, dans le milieu médical, jusque-là, on définissait le nouveau-né comme selon les termes des obstétriciens du siècle dernier, comme le produit nécessaire et inévitable de la salle de travail. Et en dehors de cela, tout le monde pensait allègrement que cette petite chose qui venait sortir d'un ventre maternel, c'était un tube digestif dans lequel il entrait des aliments et il sortait des déchets. Et que tout ça, ça faisait pousser, qu'il fallait un certain temps pour que les choses se mettent en place. De la même manière, quand une jeune mère à cette époque prenait son bébé dans ses bras, le regardait et venait dire « il me reconnaît », elle suscitait de la part de toutes les personnes qui étaient autour d'elle une forme d'attendrissement un peu et de pitié en disant « la pauvre, elle a attrapé la folie maternelle ». Comment est-ce qu'un tout petit comme ça peut reconnaître? Eh bien, à partir du milieu des années 70, on a commencé à s'intéresser à ce nouveau-né et on a mis en place des protocoles expérimentaux qui montre la nature du lien concret qui existe entre une mère et son enfant. Et on a été extrêmement étonné de se rendre compte qu'en définitive, ce tout petit qui vient au monde n'est pas un individu désarmé, mais un individu prodigieusement armé. De quoi ? Eh bien, d'un cerveau sensoriel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la boîte crânienne, dans cette matière cérébrale dont on parle beaucoup, il y a des zones qui sont les zones qui enregistrent les sensations, on appelle ça le cerveau sensoriel, et des zones qui ordonnent les mouvements, on appelle ça le cerveau moteur. Dans les zones sensorielles du tout petit qui s'édifient au cours de la gestation, il y a tout ce qui recueille l'ensemble des sensations. Et on a eu la surprise de découvrir qu'un nouveau-né d'à peine quelques jours est capable, je dis d'à peine quelques jours, mais sans doute de petit dès la naissance, les expérimentations ont été faites à l'âge de 4 ou 5 jours, est capable de discriminer l'odeur de sa mère de l'ensemble des odeurs de centaines de femmes, avec une très grande sécurité, les 100% de résultats. Il est capable de discriminer les aliments que sa mère aime, c'est-à-dire qu'il goûte, en gros, il aura goûté pendant sa gestation les aliments que sa mère a mangés. Il est capable de reconnaître la manière dont sa mère le porte. Il est capable de reconnaître la manière dont sa mère marche. Ce sont des choses qui ont été inscrites en lui pendant la grossesse. Il est capable de reconnaître la voix de sa mère parmi toutes sortes de voix de femmes. Il est même capable de produire un véritable travail pour avoir le plaisir d'entendre cette voix. Et ces zones sensorielles sont toutes liées entre elles à l'intérieur du cerveau. Et sauf une qui, elle, n'a jamais fonctionné, mais elle est liée aux autres, c'est la zone sensorielle de la vision, puisqu'il était dans un milieu obscur. Eh bien, alors même qu'il n'y a aucune espèce de base de données dans le cerveau du côté de la vision, il suffit simplement de 8 heures de vie aérienne d'un bébé pour qu'il puisse reconnaître sa mère sur photo. Vous voyez un petit peu les performances. Donc ces mères qui disaient ils me reconnaissent, ils me reconnaissent, n'étaient pas dans ce qu'on pouvait penser être la folie qui les atteignait du fait d'être mère. Elles étaient dans la certitude de quelque chose. Ce lien de la mère et de son bébé, qui est donc extrêmement fort puisqu'il a pu parvenir à mener la grossesse à bien, va en rétroaction apporter à la mère une satisfaction considérable. Si bien que ce lien-là va être un lien qui risque de rester la vie durant de la même tonalité. Je dis bien qu'il risque. Pourquoi ? Eh bien, parce que en fait, quand on regarde ce qu'il en est d'un être féminin, à quelque âge que ce soit, on se rend compte que c'est un être qui est caractérisé par une chose et un comportement particulier, trouver un tiers passible de besoins, satisfaire les besoins de ce tiers, et tirer de la satisfaction les besoins de ce tiers son propre plaisir. Dans ma salle d'attente, j'observais le fait de façon très régulière, quand il y avait plusieurs enfants qui jouaient, il y en avait un qui perdait sa voiture rouge, il y avait tous les petits garçons qui se précipitaient pour la lui prendre, pour lui donner un petit coup au passage, ils pleuraient, et il y avait toujours une petite fille, elle avait 20 mois, elle avait 2 ans, elle avait 2 ans et demi, qui venait le caresser pour le consoler. Il y en a là quelque chose qui, dont on pourrait dire que c'est strictement inné. Rendez-vous compte que pendant la grossesse, cet être de besoin du fœtus exprime des besoins à chaque seconde de son existence, et que le corps maternel va donc satisfaire. Et bien cette satisfaction des besoins, elle est couronnée par le fait que cette gestation s'achève et donne naissance à un être vivant. Une femme donne la vie. Une femme donne la vie avec les miracles de son corps. Elle, d'ailleurs, elle n'en a pas toujours conscience. Elle le fait dans une forme de désintéressement auquel vous pouvez éventuellement associer chacun de vous et chacune l'image de ce qu'a été pour vous dans votre petit âge, votre propre mère. Je veux dire que lorsqu'il m'arrivait dans ma clientèle de peser un bébé de 8,5 kg, qui était encore strictement au sein, de façon absolument exclusive, et de dire à une mère, vous savez bien, madame, ces 8,5 kg de vide, il lui fallait un certain temps pour réagir. Elle ne prenait pas conscience tout de suite que c'était bien 8,5 kg d'elle qui faisait ce bébé. Mais, à l'intérieur d'elle-même, l'attachement qu'elle manifeste n'était pas manifesté à ce bébé. Et d'une force tellement considérable qu'il constitue, qu'il rentre dans la composition et la cohérence de son être féminin. Donc, sa propension naturelle va être de faire en sorte que son enfant ne manque jamais de rien. Retenez bien cela. Une mère veut, souhaite, ne cesse pas de souhaiter que son enfant ne manque jamais de rien. D'un enfant qui ne manque jamais de rien, le latin dit qu'il est in cestus. Autrement dit, il ne manque de rien, cestus étant le supin du verbe careo, je manque, il est en négatif. C'est pas par hasard que le terme de qui ne manque de rien vient rappeler et ramener quelque chose qui est de l'ordre de ce que l'on appelle, communément, ou qu'on entend communément sous le terme d'inceste. C'est-à-dire qu'il y a, du côté de la mère, une propension naturelle, quel que soit le sexe de son enfant, de refuser l'idée qu'il est sorti d'elle et qu'il va, en quelque sorte, vivre pour lui. Trop de bénéfices de son côté à elle seraient remis en cause si elle acceptait que cet enfant s'éloigne d'elle. Alors, qu'elle soit juive ou de toute autre religion, qu'elle soit de quelque race, de quelque ethnie, de quelque nationalité qu'elle soit, son rêve est toujours le même. C'est-à-dire, essayer de faire en sorte que cet enfant puisse être le plus satisfait possible à chaque instant de l'existence. Cette disposition maternelle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante en toile de fond. Et elle est strictement indispensable pour chaque individu, c'est-à-dire que pour chacun, l'idée que j'ai une mère disponible à ce point pour moi est une chose qui va me permettre d'avoir une assise dont je suis sûr. Le problème, c'est que si aucun correctif n'est apporté à cette propension, l'enfant va estimer que tout lui est demandé. C'est-à-dire que cette attitude maternelle va entraîner la démission de tout effort de la part de l'enfant et la mise en œuvre d'un état de fait qui en feront un enfant tyran. C'est bien la raison pour laquelle il est intéressant qu'il faille deux individus pour faire un. C'est-à-dire qu'il y ait ce tiers qui est le père. Singulier personnage. le problème de l'humanité. Un problème considérable. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point. Les éthologistes, par exemple, ont résolu le problème. Ils disent que la gent masculine est une gent parasite. Parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que le ratio homme-femme soit de 100 pour 104. Là où il y a 100 hommes, 2 suffiraient pour que l'espèce se perpétue. Pourquoi diable faut-il qu'il en ait 100 ? C'est vous dire. Alors cette histoire de père, c'est en gros un sacré débat. Un jour, je suis allé faire une visite chez un jeune couple. Tout, bien entendu, je savais que c'était des juifs. Je suis arrivé, j'ai vu un tout petit d'une douzaine de jours, et dans son examen, il était circoncis, mais d'une façon absolument parfaite. C'était une très belle circoncision. On déshabille, je ne pose pas de questions sur ce que sont les gens, je laisse les choses venir, je constate que ce bébé est bien circoncis, et je dis, il est remarquablement circoncis. Qui est-ce qui a été le Moël? Et le père me dit, moi. Ah bon? C'est vous qui avez circoncis votre enfant? Et là, je dois dire que même le médecin que je suis, qui a porté des gestes un peu douloureux sur ses enfants, en a été un peu bouleversé. Et cet homme me dit, vous savez, moi je suis rabbin, j'ai fait toutes les études pour être Moël, personne n'a voulu me confier une circoncision à faire, jusqu'à maintenant. Alors comme j'ai eu mon fils, je l'ai circoncis. Très bien. Très bien. Ce monsieur était là avec sa jeune femme et nous avons fait notre travail habituel. Je dois dire que c'est la seule fois que je l'ai rencontré. Parce que, par la suite, cette jeune femme viendra très régulièrement en consultation avec sa mère. Et là, quelque chose se dessinait, qui était tout à fait étrange, c'est que je n'avais pas affaire à un bébé, sa mère et sa grand-mère. J'avais affaire à un bébé, à quelque chose de très flou et très mou, et à une personne gigantesque. La mère de pas le poids. Elle paraissait un peu écrasée. M'étant aperçu de la chose, à une consultation, cette jeune mère n'apporte pas un vaccin. Et je dis, je lui dis, mais vous n'avez pas apporté de vaccin, il y a une pharmacie là à côté, vous allez en chercher un. Et la mère me dit, non, c'est moi qui vais en chercher, la grand-mère. Je dis, madame, c'est l'enfant de votre fille, elle va, elle, aller chercher le vaccin. Mais docteur, vous savez, j'étais champion universitaire de course à pied. Et avant même que je n'ai pu dire quoi que ce soit, elle a foncé, elle est revenue, un petit peu essoufflée, elle avait rapporté le vaccin, nous avons fait le vaccin. Et je me posais des questions sur ce qu'il s'en était. Là-dessus, c'était une famille très pieuse, là-dessus, quelques temps plus tard, je perds de vue la famille qui a déménagé en province, puis je reçois un coup de fil de la grand-mère, qui me dit, écoutez, pourriez-vous passer à la maison, il y a 3 enfants à examiner. D'accord, je viens, j'arrive et je retrouve ma jeune maman avec le petit bébé que je lui avais connu qui avait poussé, puis un autre bébé. Je lui examine le grand, je lui examine le suivant, et puis je dis, le troisième, il est où? Et la grand-mère me dit, c'est ma fille. Je dis, attendez, madame, moi je suis pédiatre. Votre fille a beau être votre fille, il n'en reste pas moins qu'elle est une adulte qui a mis au monde 2 enfants. Vous pourriez au moins en prendre acte. Et cette dame reçoit le message pour voir Et elle me dit, ah là 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 là, j'ai vu les interviews que vous avez données après la sortie de votre livre sur le père. Vous êtes vraiment très très dur avec les mères. C'est la grand-mère qui parle, hein. C'est comme si elle n'était pas dure avec sa propre fille. Elle me dit, mais après tout, peut-être que vous avez des choses à nous apprendre. Et je lui dis oui, d'autant que vous êtes une personne pieuse, que vous avez un foulard, qu'il y a des mises aux autres à toutes vos portes. Je ne vois pas comment, à l'intérieur de considérations hébraïques, on peut éventuellement mettre en place cette sorte d'exclusion. Mais d'où vous avez tiré que les pères et les hommes dans la Torah ont une importance quelconque? Ah bon? Mais on veut regarder ce qu'il en est. Dès le départ, Adam est là, il a mangé la pomme, Dieu vient lui dire qu'il a outrepassé son interdit, c'est pas moi, c'est elle! Puis vous continuez. Vous avez un Abraham, sa femme lui dit, je ne peux pas avoir d'enfant, tu vas m'en faire faire une par ta servante. Il dit, je vais faire une par sa servante. Et sa servante, ce premier enfant, est très bien. Après, elle a un enfant, elle dit, je veux plus de cet enfant, renvoie la servante. Il renvoie la servante. Vous avez la génération suivante, Isaac. Il veut bénir Esaü, sa femme dit, non, je préfère qu'il bénisse Jacob. Elle lui met des trucs, elle vient le bénir, faire bénir par son père. À la génération d'après, vous dites, mais où sont les hommes? Même Moïse! Il a fallu que sa femme lui dise dans le désert, il faut circoncire tes enfants. Où sont les hommes? C'est un cri du cœur. Un cri du cœur qui, à la fois, montre la difficulté qu'il y a à penser le personnage père, et la difficulté qu'il y a dans le partage de l'enfant par les mères. Et nous sommes là dans ce débat dont nous pourrions éventuellement, justement à cause des textes oraliques, ou en tout cas dans les textes oraliques, retrouver même des matières à discussion. Alors ce père qui est ce tiers, il sert à quoi? Il sert à quoi? Aujourd'hui, on dit... Il faut qu'il partage les tâches avec la mère, qu'il s'obtienne le biberon, qu'il change les couches, qu'il descende la poubelle, qu'il éventuellement il fasse la lessive, qu'il y ait un partage complet des tâches parce que les femmes travaillent, etc. Ça veut dire, quelle est sa spécificité? Qu'est-ce qui fait qu'il a une utilité quelconque dans le devenir des enfants? Ben, il est ce personnage qui, en principe, est là justement pour mettre à distance l'enfant de la mère et la mère de l'enfant. Mais il ne peut jamais le faire tout seul, le malheureux. Jamais. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'est pas concerné de la même manière par l'enfant. Faut pas se faire d'illusions. Il faut une énergie considérable pour s'occuper des enfants. C'est crevant! Il n'y a pas un homme qui résiste à ça. Même le pédiatre que je suis ne s'est pas occupé de ses petits. Pourquoi? Parce que pour un père ou pour un homme s'occuper d'un petit, il n'y a pas de bénéfice en retour. On n'est absolument pas du tout dans la cohérence du personnage féminin qui récupère du plaisir d'avoir satisfait les besoins du tiers. Un homme, c'est très profondément égoïste. Un homme, ça cherche son plaisir et son plaisir exclusif autant que faire se peut sans rien donner. Il faut bien comprendre ça. Je veux dire que tout le reste n'est que poésie. Mais c'est très bien qu'il soit dans cet égoïsme. Parce que justement, du fait même de son égoïsme, il ne va pas laisser la mère de l'enfant à la toute disposition de l'enfant. Il va lui dire, écoute, c'est bien beau, t'as fait un enfant, mais d'abord et avant tout, tu es ma femme. Tu es ma femme, c'est-à-dire que je te veux pour femme. Te voulant pour femme, je te distrais de la toute disponibilité à l'endroit de ton enfant, et j'apprends à ton enfant à se passer de toi. Te voulant pour femme, je te dissuade de continuer de tisser autour de notre enfant commun un utérus virtuel extensible à l'infini. Cet enfant-là, il faudra bien qu'il s'en aille un jour. Cet enfant-là, il faudra bien qu'il s'autonomise. Ça, c'est le schéma classique que toutes les civilisations à la surface de la Terre ont mis en place jusque dans les années, et qui vont venir encore jusque dans les années 60-70 en Occident. Mais à partir des années 60-70, et en particulier de 68, on a balayé tout ça au motif qu'il fallait un temps soit peu réfléchir aux choses. Et qu'en définitive, l'enfant étant un bien commun, les droits des hommes et des femmes devant être strictement identiques, il n'y avait strictement aucune espèce de raison de faire une différence entre le comportement paternel et le comportement maternel. Dans nos sociétés occidentales, on a assisté à partir de ce moment-là à un véritable travail de sape autour des positions paternelles, c'est-à-dire autour de la place du père.